chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le pouvoir de la croix. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et notre première petite étude sera la consécration et la deuxième, le moi. Le moi. Chers amis, il peut arriver que le Saint-Esprit me montre que certaines phrases, je devrais les redire une deuxième fois. S'il vous plaît, ne vous heurtez pas à cela, c'est que c'est important, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours du premier coup. Croyez-moi, cela m'arrive même à mon très grand âge. Donc, chers amis, d'emblée, il faut mettre l'accent sur trois points. Premièrement, aucun croyant n'a jamais été amené à une sainte maturité spirituelle par la pression psychique telle qu'elle est exercée dans certaines églises ou par de continuelles exhortations, en tout cas pas sans avoir été déjà préparé par le Saint-Esprit. Deuxièmement, pour qu'il puisse y avoir une réelle progression spirituelle, les vérités ancrées en la personne du Christ, vérités qui seulement permettent cette croissance, doivent avoir été saisies, comprise et appropriée. Et troisièmement, la mise en pratique de toute vérité, particulièrement des vérités profondes, n'est accessible que à celui et à celle dont le cœur en ressent le besoin. À moins d'être conscient du besoin de devoir progresser spirituellement, le croyant ne dépassera jamais les vérités fondamentales qui concernent sa naissance spirituelle. Il restera donc un petit enfant en Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons donc ce stade et tournons-nous vers un enseignement supérieur qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire la repentance qui nous détourne du péché et de toutes les œuvres inutiles. Inutiles de notre vie, soyons honnêtes, antérieures et vouées souvent à la mort. Et n'oublions pas la foi en Dieu notre Père. Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. J'ai pris cela dans la transcription d'Alfred Kuhn. C'est ma version allemande, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais ça correspond, par exemple, paraît-il, même à The Amplified Bible. Je répète ce passage de Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons donc ce stade et tournons-nous vers un enseignement supérieur qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire la repentance qui nous détourne du péché et de toutes les œuvres inutiles de notre vie antérieure qui est vouée à la mort. Et ayons la foi en Dieu notre Père. Chers amis, cette question de la consécration semble avoir été parfois mal comprise, et cela par beaucoup de chrétiens. Il y en a trop, et particulièrement parmi les jeunes croyants, qui ont été toujours à nouveau les victimes d'appels pressants à un abandon ou un engagement total. Voici l'argument matraque utilisé le plus souvent par certains pasteurs. Le Seigneur Jésus s'est donné entièrement pour toi. Et le moins que tu puisses faire, c'est tout de même de t'abandonner entièrement à lui, toi aussi. On exhorte, on presse le croyant de se consacrer, de s'abandonner, de s'engager pour Christ, afin de lui prouver son amour et sa reconnaissance pour ce qui a été accompli à son intention au calvaire. Tout d'abord, chers amis, il est absolument futile de s'attendre à ce qu'un croyant, à force de consécration, d'abandon et d'engagement répété, va quitter le terrain de la substitution telle qu'elle est définie dans Romains chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, afin de faire l'expérience des vérités plus profondes qui sont contenues dans Romains chapitre 8 et chapitre 12, verset 1. Dans Romains chapitre 6, verset 7, il y a la grande vérité de l'identification. Son importance est telle que personne ne saurait en faire l'économie. Tout chrétien au cœur sincère aspire à une consécration totale et à une vie et un service efficace. Dès le début, et ceci jusqu'à ce qu'il a appris la leçon à la manière dure, eh bien le croyant bien intentionné s'imagine que pourvu qu'il ait la volonté d'obéir à Dieu et de se laisser façonner par lui, il pourra l'exécuter uniquement par ses efforts personnels et un peu avec l'aide de Dieu. Sa lutte pour progresser, elle est motivée, bien entendu, par l'amour. Cette motivation peut se formuler ainsi: Jésus-Christ a œuvré pour moi, et comment? Donc, je dois œuvrer pour lui. Chers amis, voici donc deux considérations de Andrew Murray, un célèbre serviteur de Dieu qui a écrit de nombreux commentaires bibliques très très sérieux. Andrew Murray nous aide à mieux comprendre certaines choses. Il dit: une connaissance superficielle du plan de Dieu, cela fait penser que, alors que la purification saisie par la foi est l'œuvre de Dieu, par contre la sanctification, la croissance est notre œuvre. C'est notre œuvre, œuvre qui peut être accomplie avec l'aide du Saint-Esprit, sous l'influence de la gratitude que nous ressentons pour la délivrance qui nous a été accordée. Mais le chrétien sincère se rend bien vite compte que la puissance qui découle de sa gratitude est peu de chose. S'il pense que prier davantage lui procurera beaucoup plus de puissance, il trouvera que cela ne suffit pas. Tout indispensable que soit la prière, il arrive en effet qu'un croyant soutienne un combat désespéré pendant des années, jusqu'à ce qu'il reçoive l'enseignement du Saint-Esprit en glorifiant tout à nouveau le Christ, et qui lui révélera qu'il ne peut s'approprier Christ, notre sanctification, que par la foi seule. Dieu qui produit en nous le vouloir, il est prêt à nous donner aussi le faire. Je répète, Dieu qui produit en nous le vouloir, Dieu est prêt également à nous donner aussi le pouvoir de le faire, de l'appliquer, de le concrétiser. Philippiens chapitre 2 verset 13. Malheureusement, cela est souvent mal compris. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la volonté, cela suffit pour être aussi capables de la mettre en exécution. Ce n'est pas le cas, car si la nouvelle volonté est un don permanent qui fait partie de la nouvelle nature, la puissance qui permet d'y donner suite par l'action doit être reçue moment par moment de la part du Saint-Esprit. Seul l'homme et la femme qui est conscient de sa propre impuissance en tant que croyant apprendra qu'il peut mener une vie de sainteté par le Saint-Esprit. Je répète, seul l'homme, et j'ajoute la femme, qui est conscient de sa propre impuissance, en tant que croyant, apprendra qu'il ou elle peut mener une vie de sainteté par le Saint-Esprit. Alléluia. Il arrive qu'on soit appelé à se prononcer contre une bonne chose pour en prôner une meilleure. Ainsi, il est bon de vivre sa vie chrétienne et de servir le Seigneur par amour. Mais même si c'est une motivation élevée, elle n'est pas adéquate, car elle ne correspond pas à la motivation à laquelle Dieu souscrit. En tant que chrétien impliqué dans un processus de croissance spirituelle, il est temps que nous voyons la nécessité d'aller au-delà du motif de l'amour pour en arriver, oui, pour en arriver au motif de la vie. Gloire à Dieu. Pour moi, rappelez-vous, Christ est ma vie, Philippiens, chapitre 1, verset 21. Pour moi, vivre c'est Christ. Donc, notre consécration, notre abandon et notre engagement ne suffiront pas si la raison sous-jacente est autre que sa vie en nous. Si notre abandon au Seigneur est basé sur autre chose que sa vie en nous, nos efforts de le servir ne seront que l'expression de la vie de notre moi. Chers amis, l'enseignement moderne sur la consécration équivaut à consacrer le vieil homme en cherchant à éviter la sentence de mort, ce qui ne peut que aboutir à la frustration et à l'échec. Cependant, si nous sommes prêts, vous et moi, à accepter en toute humilité que le fait de notre mort avec Christ soit la base quotidienne de notre vie et de notre service, eh bien rien ne pourra empêcher que la nouvelle vie en nous se manifeste abondamment pour répondre aux besoins de personnes assoiffées autour de nous. Je répète, l'enseignement moderne sur la consécration, cela équivaut à conserver le vieil homme en cherchant à éviter la sentence de mort, ce qui ne peut que aboutir à la frustration et à l'échec. Cependant, si nous sommes prêts, vous et moi, à accepter en toute humilité que le fait de notre mort avec Christ soit la base quotidienne de notre vie et de notre service, eh bien rien ne pourra empêcher que la nouvelle vie en nous se manifeste abondamment pour répondre aux besoins des personnes assoiffées autour de nous. Nous voici donc au cœur du problème. La question se pose. Quelle est la vie que nous lui consacrons? La vieille vie du moi ou de la nouvelle vie de Christ? Dieu ne peut rien accepter de la vieille vie. Il ne voit et ne reconnaît que ce qui est entré, centré vraiment sur son Fils bien-aimé. Car c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, c'est lui qui est notre vie. Et c'est pourquoi, en matière de consécration, Dieu n'exige qu'une seule condition. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Romains chapitre 6, verset 13. Je répète. Dieu ne peut rien accepter de la vieille vie. Il ne voit et ne reconnaît que ce qui est centré sur son Fils. C'est lui, notre vie. C'est pourquoi, en matière de consécration, Dieu n'exige qu'une seule condition. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Romains chapitre 6, verset 13. C'est là notre seule base. Nous devons nous considérer comme morts au péché, au moi, à la loi et au monde. Mais nous devons rester vivants pour Dieu en Christ ressuscité, pour marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Je répète, nous devons nous considérer comme étant morts au péché, comme étant morts au moi, comme étant morts à la loi et au monde, mais comme étant vivants pour Dieu en Jésus-Christ ressuscité, pour marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Dieu nous demande de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Avant d'avoir fait cela, il n'y a absolument rien d'autre que nous puissions faire. À remarquer que cette exhortation, elle se trouve après Romains chapitre 6. Voyez-vous, il y a une raison à cet ordre-là. La crucifixion précède toujours la consécration. Le moi, non encore crucifié, se refuse à la consécration. Cela explique pourquoi il y en a tant qui s'avancent toujours à nouveau dans les églises pour consacrer leur moi qui n'est pas crucifié à Dieu. Je répète, la crucifixion précède donc la consécration. Le moi qui n'est pas crucifié se refuse à la consécration. Et cela explique pourquoi il y en a tant qui s'avancent toujours à nouveau dans les églises pour consacrer leur moi non crucifié à Dieu. C'est pourquoi il faut présenter les vérités ayant trait à l'identification avec beaucoup de soin, en veillant d'aller au fond des choses. Tout cela pour qu'elles puissent être comprises et ensuite pouvoir être mis en pratique. Sans ces vérités, il est inutile même de parler de consécration. Il y en a qui ressentent l'enseignement sur l'identification comme la mise en valeur d'un sujet qui, s'il est intéressant en soi, ne s'adresse pourtant que à une élite en recherche d'une vie plus profonde. Romains, chapitre 6, n'est pas un aspect de la vérité, mais c'est la vérité fondamentale qui doit servir de base à tout croyant qui veut connaître la victoire. Pour terminer cette partie, une étude approfondie de toutes les épîtres de l'apôtre Paul révélera qu'elles ont toutes été écrites dans l'optique de la croix, telle qu'elle est présentée dans Romains chapitre 6. Dieu a relégué la vie adamique déchue à la croix, car il n'en a que faire. Toutes les mesures que Dieu prend à l'égard des croyants ont la même base. Tu es mort en Christ. Cependant, l'Église dans son ensemble n'en tient aucun compte. Elle considère la créature déchue, la vie du moi, comme pouvant être améliorée, et de ce fait, elle enlève à la croix son sens profond. Faire mourir la vieille race adamique qui est irrémédiablement corrompue. Deuxièmement, nous avons le moi. Oh là là, j'en sais quelque chose. Du moi. Oh oui, pensez bien à passer 90 ans. J'ai appris. Chers amis, l'un des facteurs les plus importants pour la croissance spirituelle du chrétien, c'est la clarté que le Saint-Esprit lui donne sur la vie de son moi. Ce moi qui peut être définie comme étant la vie naturelle charnelle, comme étant la vie du premier Adam. Et oui, ceux qui vivent cette vie-là, ils sont morts par leur faute et souvent également par leur péché. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et ils sont entièrement corrompus devant Dieu, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Il n'y a rien de bon en eux aux yeux de Dieu. Romains chapitre 7, verset 18. C'est donc là que les principes spirituels prennent toute leur importance. Même si le célèbre Platon avait raison, plus qu'il ne s'en rendait compte quand il disait par exemple « Connais-toi toi-même ». Oh là là, quelle maxime ! Il n'avait pourtant que à moitié raison. Car l'apôtre Paul, lui, avait entièrement raison quand il a dit, non pas moi, mais Christ uniquement. Galates chapitre 2, verset 20. Il s'agit donc d'aller au-delà d'une simple connaissance se rapportant à Jésus-Christ pour entrer dans une relation personnelle de communion croissante avec lui. Cela nécessite une connaissance de soi-même pour commencer. Il ne s'agit pas d'introspection, mais il s'agit d'une révélation du Saint-Esprit qu'il faut vivre. Le croyant doit d'abord apprendre que le Christ doit remplacer son moi. En ce qui me concerne, Jésus-Christ a dû remplacer mon moi. Non pas moi, mais Christ. Il doit d'abord comprendre que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Et ensuite, que s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Jean chapitre 12, verset 24. Donc, il doit d'abord être d'accord d'être sans cesse livré à la mort pour que ensuite la vie de Jésus puisse se manifester. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. Toute vie de résurrection jaillit de la mort, sans quoi ce ne serait pas une vie de résurrection du tout. Romains chapitre 6, versets 5 et 6. Nous avons à nous livrer nous-mêmes à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Romains chapitre 6, verset 13. Je répète. Toute vie de résurrection jaillit de la mort, sans quoi ce ne serait pas une vie de résurrection du tout. Romains, chapitre 6, versets 5 et 6. Nous avons à nous livrer nous-mêmes à Dieu comme des vivants qui sommes revenus de la mort. Romains, chapitre 6, verset 13. Depuis quelque temps, on constate que beaucoup de conversions ne sont que un engagement qui n'est souvent, hélas, qu'une sorte d'avortement spirituel. Le peu de vie qu'il y a s'épanouit du jour au lendemain et produit très rapidement le fruit d'une personnalité dynamique, d'accord, parfois même très radieuse, emparée d'une activité débordante sans répit. Mais spirituellement, cela équivaut à un échec, car le moi, qui représente ma chair corrompue, le moi y est parfaitement à l'aise et prospère encore beaucoup mieux que jamais, de sorte que son vrai visage n'est que rarement découvert. Tout est beau et cœur rime souvent avec fleur, sans aucune distinction. J'avais un ami, il y a très longtemps de cela, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, Jean Wurmann. Il est maintenant près du Seigneur. Donc je peux en parler. J'espère, pour lui, que les doryphores qu'il avait ont pu être extradés, enlevés, extirpés. Car pour moi, c'était un travail qui a nécessité des années. Pensez donc, un père qui s'est marié 5 fois, satanisé, plein de démons, comment voulez-vous que son rejeton n'écope pas quelque chose? Cela est du reste écrit dans le livre des Lévitiques, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez vérifier. Eh bien, contrairement à moi, qui ne mérite rien, oh non, c'est des miracles. Évidemment, on pourra dire pourquoi pour moi et pas pour lui. Mais j'espère que avant de mourir, ça a pu aussi être pour lui. Je l'espère de tout mon cœur. On allait à des réunions de prière à Yverdon. Des réunions de vendredi qui duraient toute la nuit jusqu'au samedi matin. Jean pouvait prier d'une façon à ce que vous attrapiez la chair de poule. Tellement que c'était émouvant et beau, fabuleux. Ensuite, il parlait en langue. C'était merveilleux. C'était sublime, on peut vraiment le dire. Bien sûr que certains qui écoutent ne vont jamais croire la suite que je vais dire, parce que il ne leur a pas été donné de pouvoir comprendre tout l'aspect de la sainte parole de Dieu. Figurez-vous que il a été souvent, on peut dire même toujours, interprété par ceux qui avaient le don d'interprétation. C'était fabuleux, magnifique. Vraiment, on se sentait emporté presque dans les cieux. Et au retour, dans sa Jaguar et de sport, il me disait, « Henri, comment puis-je être débarrassé de certains esprits mauvais? Je lutte pourtant, je suis sincère, mais c'est plus fort que moi. Je retourne à certaines choses défendues. Je n'ose pas vous dire ici de quoi il s'agissait, je vous dirai vaguement que ça a apparenté à ce que nous entendons aujourd'hui parfois de certains prêtres. J'en dirai pas plus. Mais attention, j'ai dit certains prêtres. Je n'ai pas dit tous les prêtres. Il y a des prêtres intègres, honnêtes. Il y a des sœurs dans des couvents qui sont sincères, qui sont saintes. Quelques-unes ne le seront pas, c'est vrai. J'ai vu cela. Malheureusement, j'ose pas en dire beaucoup plus, parce que j'étais un semi-chrétien en ce temps-là. C'est pour ça que je peux vous en parler. Mais n'accablons pas l'ensemble des serviteurs et des servantes de Dieu. Oui, ils souffraient. Et pourtant, beaucoup de serviteurs célèbres qui sont maintenant auprès du Seigneur, des célébrités venues souvent d'Amérique, connues dans les milieux de la Pentecôte, ont prié pour lui en imposant les mains sur lui. Et il est tout à fait normal que vous avez le droit de penser qu'il a été totalement délivré. Hélas, ce n'était pas le cas. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez, si vous possédez Internet, vous pouvez trouver toute une série sur la démonologie que j'ai été inspiré de faire en son temps, quand finalement, après une terrible lutte que je ne souhaite à personne, j'ai été délivré et j'ai pu faire cette série sur la démonologie. Vous pouvez écouter gratuitement sur www.bibleexplique.ch. Chers amis, une authentique nouvelle naissance est basée sur une profonde conviction de péché qui doit être suivie d'une sincère repentance envers Dieu, où l'amour et la consécration pour le Seigneur sont présents dès le début. Mais bientôt, le croyant né de Dieu se rend compte, et combien douloureusement, qu'il est habité par une puissance qui le pousse à manifester son égoïsme naturel, qui l'entraîne dans le monde, qui veut le soumettre à nouveau à la loi et au péché. L'évidence du péché habitant dans sa chair et de la puissance du moi se manifeste dans sa vie et mènera le croyant au brisement, moyen par lequel il reconnaîtra en Jésus-Christ non seulement son Sauveur, mais aussi son Seigneur et sa vie. Il sera alors en mesure de croître spirituellement. Chers amis, aucun croyant ne peut vraiment connaître le Seigneur Jésus comme sa vie, tant qu'il n'a pas fait l'expérience déchirante de la réalité de la vie du moi, du moi dans les manifestations qui sont si mortelles, alors seulement il pourra s'exclamer avec l'apôtre Paul : oui, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21. Car Jésus-Christ est ma vie pour l'éternité. Lors d'une conférence ayant pour sujet la vie spirituelle, il y a bien des années en arrière, le fameux docteur C.I. Scofield disait : ce n'est pas chacun, et loin de là, qui passe par l'expérience décrite dans Romains chapitre 7, qui a vécu ce conflit agonisant, qui consiste à désirer faire le bien pour découvrir qu'il est incapable de l'accomplir. Pour la personne qui en fait l'expérience, qui commence à se rendre compte quelle est l'envergure de ce conflit où elle se débat pour être toujours à nouveau vaincue, il en résulte une grande bénédiction. Car le premier pas qui permet de sortir de cette lutte décrite dans Romains chapitre 7, c'est d'entrer dans la victoire dont parle Romains chapitre 8, c'est de passer tout d'abord par la première phase de Romains chapitre 7. Chers amis, ce ne sont pas ceux qui, souvent en versant des larmes amères, cherchant par tous les moyens à obtenir la victoire, victoire qui se dérobe continuellement, c'est pas eux qui sont le plus à plaindre. Non, non, non. Ce sont ceux qui ne livrent aucun combat et qui ne connaissent pas non plus la victoire, ce dont ils ne se rendent même pas compte, car ils sont satisfaits qu'ils sont à vivre une vie dont les richesses qui leur appartiennent en Christ sont presque absentes. Je répète, ce ne sont pas tellement ceux qui souvent versent des larmes amères et qui cherchent par tous les moyens à obtenir la victoire, victoire qui se dérobe continuellement. Ce n'est pas eux qui sont le plus à plaindre, non, non, non. Mais ce sont ceux qui ne livrent aucun combat et qui ne connaissent pas non plus la victoire, ce dont ils ne se rendent du reste même pas compte. Ils sont satisfaits à vivre une vie dont les richesses qui leur appartiennent en Christ sont presque absentes. Il y a bien des jeunes chrétiens qui, n'ayant pas été avertis que le Saint-Esprit allait leur faire la découverte dont parle Romains chapitre 7, ont été plongés dans un désespoir presque incurable une fois qu'ils se sont rendus compte de l'état de péché dans lequel ils se trouvent par nature. Alors ils ont d'abord été remplis de la joie de savoir tous leurs péchés pardonnés et d'être pleinement acceptés par Dieu. Mais tôt ou tard, ils se sont rendus compte que tout n'était pas tout à fait en ordre, qu'ils étaient bien loin d'atteindre les auteurs auxquels ils s'étaient attendus dans le premier enthousiasme de leur conversion. C'est alors qu'ils ont fait l'expérience douloureuse que l'apôtre Paul décrit en ces termes si aptes dans Romains chapitre 7, verset 15, où il est dit « Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, ce que je haïs, voilà ce que je fais. Par conséquent, ils ont le sentiment que leur vie chrétienne ne rime plus du tout à rien. Le diable leur insinue qu'il est donc inutile de vouloir continuer, parce que jamais ils ne sauraient suffire aux exigences d'une vie chrétienne victorieuse. Alors ils ne se rendent pas compte, ces chrétiens-là, qui sont jeunes pourtant dans la foi, à quel point leur expérience est salutaire, et que la découverte écrasante qu'ils viennent de faire n'est que le prélude à une magnifique série de nouvelles découvertes que Dieu, oui Dieu le Père, veut leur faire vivre dans le but de les enrichir pour l'éternité. Tout au long de notre vie, Dieu doit nous rendre sensibles au péché qui nous habite et nous montrer à quel point nous avons besoin du Seigneur afin de pouvoir nous mener dans l'abondance de sa grâce et nous faire entrevoir sa gloire. La révélation de soi-même précède toujours la révélation de Dieu. C'est là un principe qui vaut autant pour la nouvelle naissance que pour la croissance spirituelle. Les combats et les échecs par lesquels un chrétien passe ne sont en fait qu'une preuve que le Seigneur lui-même s'occupe de lui avec tout l'amour et toute la sollicitude qui lui sont propres. Dieu lui fait comprendre quel est son état véritable. C'est un processus qui peut durer des années, et oui, j'en sais quelque chose, afin de nous mener dans la mort à lui-même, la seule base qui lui permettra de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant ainsi conforme à lui, dont sa mort, est-il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Dieu œuvre donc d'une manière paradoxale. Le succès passe souvent par l'échec. La vie surgit souvent de la mort, et j'en sais quelque chose. Ce qui s'écoule dans la vie du croyant, ou plutôt ce qui s'écroule, c'est de qui doit disparaître. C'est-à-dire la vie nouvelle, elle ne peut jamais être touchée ou détruite. Car cette désintégration du moi ne peut être amenée par le croyant lui-même. Car le fameux moi, oh oui, ne se débarrasse jamais du moi. Je répète, ce qui s'écroule dans la vie du croyant est ce qui doit disparaître totalement. C'est la vie nouvelle qui ne peut jamais être touchée ou détruite. et cette désintégration du moi ne peut être amenée par le croyant lui-même, car le moi ne se débarrasse jamais du moi. Le Saint-Esprit doit l'amener à constater son échec, car nous qui vivons, nous sommes censés se livrer à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, verset 11. Bien souvent, le moyen qu'utilise le Saint-Esprit est un conjoint parfois totalement incrédule. Là aussi, j'en sais quelque chose. Mais cela peut aussi parfois être une maladie terrible. J'ai vécu cela. En fait, le Saint-Esprit utilise mille et une choses pour faire ressortir ce qu'il y a de pire en nous. Et je vous rappelle le « toutes choses » qui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. « Car il veut que nous comprenions que la vie chrétienne doit être non pas moi, mais Jésus-Christ. Alléluia !» Nos échecs ne sont jamais dus aux gens et aux circonstances, mais aux réactions de notre moi. Et c'est à lui qu'il faut s'attaquer. Il y en a probablement beaucoup qui ont connu la joie découlant de la grâce de Dieu sans avoir bien saisi quel est le vrai caractère de la chair. On a souvent pu constater que les jeunes convertis qui ont manifesté le plus d'exubérance et de joie ont parfois fait preuve d'une inconstance qui est due au fait qu'ils ignorent que la chair n'a pas changé du tout. Dans ce cas-là, on s'approprie la grâce de Dieu avec beaucoup trop de confiance en soi-même, vu qu'on manque de critique envers soi-même et ne comprend pas sa faiblesse et sa dépendance. La conséquence inévitable, c'est la chute, ou une série de chutes par lesquelles on apprécie peu à peu à quel point on est faible et incapable d'accomplir par la chair ce qui est du domaine de l'esprit. Les formes sous lesquelles se manifeste le moi sont pratiquement infinies. Il y en a qui s'occupent de leur bon moi. Ils sont fiers, ceux-là, de leur achèvement. D'autres s'occupent tout autant de leur mauvais moi. Alors ils gémissent continuellement, ils se lamentent, ils ont des dépressions, ils ont besoin de secours, du psychiatre, du psychanalyste, et j'en passe. À cause de leur imperfection, de lutter contre la chair. Nous devons lutter contre la chair, comme s'il espérait pouvoir finalement améliorer leur chair. Ça, c'est une utopie. C'est un rêve. Quand serons-nous, chers amis, enfin convaincus qu'il n'y a pas d'espoir de ce côté-là? Les expériences que nous faisons dans la puissance de Dieu sont en proportion avec celles qui nous font cesser de compter sur notre moi. Mes chers amis, pour terminer, considérez-vous simplement comme faible face au péché. Et cela va beaucoup plus loin. Considérez-vous, pourquoi pas, comme mort au péché. Amen. Romains chapitre 6, verset 11. Il y en a qui se considèrent comme très faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont encore un peu de force en eux. Mais un mort n'a plus de force du tout. Ça, c'est la différence. Il nous faut donc agir comme étant mort en ce qui concerne le péché. Alors, nous ne dirons plus combien notre moi trouve difficile de résister à la tentation. Nous irons beaucoup plus loin et nous dirons que c'est impossible parce que nous savons que ce qui est impossible au moi est possible à Dieu. Alléluia. Nous prendrons donc notre place du côté résurrection de la croix. Et en ce faisant, nous laissons derrière nous la vieille vie du moi pour entrer dans la vie de Jésus-Christ. Oui, vivre en Christ, notre vie, c'est vivre dans la puissance de Dieu, notre Père. Quelqu'un a dit très justement, beaucoup de chrétiens sont séparés du monde tout en n'étant pas séparés de leur moi. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose encore, oui, avant de prier ensemble. Voyez-vous, on peut dénigrer quelqu'un totalement, oui, on peut carrément l'assassiner. J'ai donc fait plus de 4000 CD, un travail colossal. Et bien entendu, il est vrai, je le reconnais, qu'il peut y avoir un ou deux CD, voire peut-être une dizaine, tout au plus, sur plus de 4000, qui peuvent paraître ne pas être totalement 100% bibliques. Pourquoi ? Parce que autrefois, ou il y a longtemps, j'ai parfois pris des témoignages de personnes qui sont maintenant décédées depuis très longtemps, qui ont eu des visions. Oui, carrément des visions. Et une personne a eu, par exemple, une vision sur le ciel, authentique. Et j'ai traduit de l'allemand cette fameuse vision et je l'ai mis sur CD. Alors, un serviteur de Dieu a pensé qu'il fallait qu'il fasse quelque chose contre ça. Ce qu'il a fait, c'est son problème, car nous aurons tous à rendre compte devant Dieu de ce que nous faisons de bien et de mal. Il y avait là deux sœurs chrétiennes qui autrefois étaient des jeunes filles, comme moi j'étais un jeune homme. Et malheureusement, j'ai envoyé à l'une d'entre elles la série concernant Marietta. Je vous ai parlé donc d'une vision du ciel. Eh bien, j'aurais certainement dû prier avant d'envoyer cela, et je n'avais pas prié, et probablement c'est pour ça qu'ils m'ont plus jamais répondu, parce que ce serviteur de Dieu s'en est bien occupé. Bref, je peux aussi me tromper. Et si je me trompe, je demande pardon. Évidemment, cela est mon devoir. Chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Et s'il y a encore un peu de place, je mettrai un ou deux chants d'un très très lointain passé, 1954. Mais prions tout d'abord. Ô Christ Jésus, est-ce du genre humain ton destin et notre histoire, la route et notre chemin? Béni sois-tu, Fils de l'homme, serviteur d'amour de l'Éternel, de quelque nom qu'on te nomme, triomphateur immortel, car tu as vaincu le séjour des morts. Désormais, nulle défaite ne brisera notre élan. Nous aurons le cœur en fête. Notre cause est invincible, et vers l'ultime clarté se tend d'un geste infaillible le bras du ressuscité. Oui, oui, Christ est ressuscité. C'est le cri de victoire, car lui seul, de la terre aux cieux, franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli, car Christ est ressuscité. Que au Rédempteur vivant, notre âme soit unie à toujours, aimant de son amour, saint de sa sainteté, commençons sur la terre une nouvelle vie en attendant les cieux. Oui, Christ est ressuscité. Amen. Et rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime vraiment de tout son amour. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, je vous enlace tous, vous qui écoutez, et je vous embrasse, et je vous dis oui, je vous aime de tout mon cœur, et soyez bénis. Et maintenant, voyons si des chants d'un très très lointain passé, 1954, si ça fonctionne encore, peut-être, va savoir.
La vie est longue, mais ses heures sont comptées. Nul ne peut défier la destinée. Moi, je ne crains pas la mort, et si je la rencontrais, c'est en paix que je m'endormirai. Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra. On se reverra. Le temps s'écoule, chacun suit son chemin, inventant des jours sans lendemain. Moi je ne crains pas la mort, sans peur je l'affronterai, regrettant de laisser ce que j'aimais. Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Mon âme sera libre, libre et soulagée. J'aurai enfin trouvé la paix. Là où j'irai, je ne verrai plus ton visage, où des larmes couleraient, si je partais.
Si je partais, sois sans crainte, car là-haut